Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode My NutriCoach, le podcast qui vous donne des conseils que vous ne trouverez nulle part ailleurs pour préserver votre capital santé. Dans ce nouvel épisode, nous allons répondre à vos questions posées lors des trois précédents épisodes et nous accueillons dans un second temps un invité exceptionnel, Thierry Courbarieux, qui nous partagera son expérience et ses conseils de coaching. Bonjour Thierry Schmitt, je t'ai déjà présenté dans les précédents épisodes, mais tu es diététicien et spécialiste du comportement. Je peux un peu t'appeler notre fabrique à Quick Nutrition qui change la vie. Et comme tu le sais, la rentrée est souvent l'occasion pour les internautes qui nous écoutent d'entamer un changement de comportement et un changement de leur alimentation. Il est difficile de répondre à toutes les questions qui ont été posées, mais on peut retenir deux thèmes principaux qui reviennent, l'eau et la notion d'entropie dont tu as parlé. On a beaucoup parlé dans les épisodes précédents et surtout c'est un élément essentiel, l'hydratation. Et aujourd'hui, les internautes se posent la question de comment choisir mon eau, comment concilier qualité de l'eau et écologie. Finalement, qu'est-ce qu'il en est réellement de cette histoire d'hydratation et d'eau et quels sont, pour bien rappeler finalement des conseils très utiles aux internautes, quels sont tes quick wins en lien avec l'hydratation?
Merci Mohamed. Oui, on va essayer de reparler un petit peu de l'eau. Cette eau qui est tout autour de nous, qui est une des molécules les plus importantes de cet univers, la vie s'exprime à travers cette eau. Tous les paysages dépendent des propriétés de l'eau. La vie animale dépend des propriétés de l'eau et notre santé dépend des propriétés de l'eau. Et c'est à ce titre que c'est intéressant de revenir un petit peu sur cette notion d'une des propriétés de l'eau qui est l'activité de l'eau. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'activité de l'eau, on avait vu précédemment qu'on était constitué de 99% d'eau d'un point de vue cellulaire et que derrière, c'était les ions, c'est-à-dire les minéraux, les oligo-éléments qui jouaient un rôle d'hydratation parce qu'ils maintenaient l'eau dans le corps et en même temps un rôle de passeur pour faire circuler l'eau à travers le corps. Mais qu'est-ce que c'est que l'activité de l'eau ? L'activité de l'eau, ça signifie quoi ? Ça signifie tout simplement que plus l'eau est chargée, moins elle aura de capacité à transporter les choses. Ça signifie que lorsque je choisis une eau faiblement minéralisée et avec moins de composés qui soient toxiques ou autres, elle va avoir réellement la propriété à dissoudre les éléments et à les transporter. Ça va être très bon pour vos aliments parce qu'une eau qui est parfaite va pouvoir transporter plus de nutriments dans votre intestin vers le sang. Mais une fois que les nutriments seront captés, ça va permettre également de transporter les déchets pour les amener aux émonctoires, c'est-à-dire l'urine et les selles, tout simplement. Et souvent, le manque d'eau, puisque rappelons que l'eau, c'est 12 litres d'eau dans le système digestif, dans le transit intestinal. Eh bien, cette eau, elle est amenée par notre corps, elle est récupérée au niveau du côlon. C'est un gros circuit et si j'en manque, souvent, un des symptômes majeurs, c'est la constipation, tout simplement. Alors, l'eau, et quand elle a une forte activité, elle permettra également de mieux laver vos légumes et vos fruits. Que ce soit bio ou que ce soit non bio, laver ses légumes, et encore mieux, plus quand c'est non bio, laver ses légumes est essentiel parce que l'eau qui aura une forte activité aura plus de capacité à pomper les toxicités. Et vous voyez que l'activité de l'eau est essentielle à avoir à l'esprit. Donc, je terminerai là-dessus en disant sur cette notion d'activité, sur le fait qu'il faut choisir une eau faiblement minéralisée et sans toxicité et sans trop d'éléments. Et dans la minéralité, l'idéal, c'est d'être autour de 30 mg de résidus secs. Voilà. Ce qui veut bien dire qu'on doit boire une eau pour notre constitution, pour le transport. Les légumes et les fruits, ils nous apportent de l'eau, mais c'est une autre forme d'eau, c'est une eau morphogénique, c'est une eau qui est chargée en minéraux, en oligo-éléments, dont elle n'a pas les mêmes vertus. On est d'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence, dire « Ok, j'ai mes apports minéraux, oligo-éléments par les légumes et les fruits qui m'amènent de l'eau et d'autres éléments. Par contre, mon eau de boisson, je dois avoir mes apports de 1,5 litre d'une eau faiblement minéralisée et bien entendu sans toxicité. » Alors bien sûr, je privilégie toujours l'eau filtrée. L'osmose est certainement un des meilleurs moyens qui permet d'enlever les excès de minéralité. Parce que là encore, un exemple. Lorsque la ville vous amène de l'eau, si l'eau est trop faiblement minéralisée, l'activité de l'eau va faire qu'elle va voler tout ce qu'elle a dans les tuyaux dans lesquels elle passe. Et donc, au bout de 5-10 ans, vos canalisations seraient usées. Donc, la ville est obligée de charger l'eau en minéralité pour que les canalisations soient préservées. Donc, vous voyez bien que nous, on doit réagir de la même façon. Elle doit choisir une eau de boisson avec une forte activité, donc une faible minéralité, et surtout, pas de polluants à l'intérieur. Et c'est là que le plastique des bouteilles peut être problématique par rapport aux additifs, par rapport à l'impact écologique. On doit maintenant réapprendre à consommer l'eau en filtrant son eau. Voilà, je voulais insister sur cette notion d'activité de l'eau. Elle fait prendre conscience que ses propriétés sont essentielles et qu'on ne va pas chercher ailleurs ce qui est essentiel à la vie. Je conclue là-dessus sur l'activité, sur le rôle de l'eau.
Merci Thierry pour ce rappel sur l'eau, l'hydratation qui est essentielle. Et la rentrée est également la période où on essaye d'éliminer les excès de l'été ou alors une période où on s'adonne aux excès. Tu avais dit dans l'un de tes épisodes précédents que tout excès alimentaire conduit à l'entropie et cela avait fait beaucoup réagir par mail les internautes. Comment la notion d'entropie peut nous aider aujourd'hui ou peut aider les internautes à mieux aborder l'alimentation et ce rapport justement aux excès et aux calories?
En fait, l'entropie, d'un point de vue physique, c'est la deuxième loi de la thermodynamique. Mais pour essayer de l'illustrer, c'est de comprendre que l'énergie ne disparaît pas, elle se transforme en permanence. Vous pouvez fabriquer de l'énergie électrique à partir de la chaleur, mais tout ça s'additionne. Mais ce qui est important, il y a souvent des conséquences avec cette énergie qui disparaît pas, il y a toujours une augmentation de cette notion d'entropie. Si vous vous souvenez, on en avait un petit peu parlé dans l'information, en disant, regardez, aujourd'hui, on a de plus en plus d'informations par mail, par réseaux sociaux, et en fait, il se produit un effet tout à fait sournois, où tout le monde se plaint en disant, mais en fait, trop d'informations tue l'information, je n'en peux plus, je ne peux plus lire les mails. Et voilà, voilà une forme d'entropie, si je peux me permettre. Eh bien, c'est pareil, lorsque je mange trop, je vais créer des surcharges qui vont conduire à d'autres formes de vie. Et vous allez comprendre quand je prends par exemple l'exemple de la mouche. La mouche, elle a 13 000 gènes et nous, on en a 19 000. Et on peut se poser la question de se dire, on a quand même qu'une différence de 6 000 gènes entre la mouche et nous. Pourtant, on a d'autres capacités. Comment ça se fait? Eh bien, en fait, on a découvert qu'on était des êtres hybrides et c'était toutes les bonnes bactéries que nous hébergeons qui nous apportent leurs capacités génétiques. Et puis en même temps, on sait que on a plein de gènes qui s'expriment pas, on sait pas pourquoi, mais en fait, c'est cette notion d'épigénétique et cette notion d'entropie qui va faire en sorte que je vais déclencher des choses ou je vais pas les déclencher. Mais malheureusement, avec l'entropie, avec ces excès alimentaires, je vais peut-être souvent développer des formes bactériennes qui vont nuire à mon équilibre. Et c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. L'entropie nous fait prendre conscience que la nature nous offre la capacité à manger tous les jours, mais chaque fois qu'on va aller dans l'excès, on va conduire à une énergie disponible qui va permettre de développer d'autres formes de vie, mais qui ne sont pas la nôtre. Et donc, on va développer des déséquilibres, on va développer des maladies, on va développer l'obésité, mais surtout, on va développer des maladies dégénératives. Et ça, c'est vraiment essentiel à avoir à l'esprit.
Merci Thierry pour ces rappels de rentrée. J'espère que justement ces réponses et également ce déroulé de réflexion, mais également de partage de connaissances et de conseils actionnables, fameux quick win, permettront aux internautes justement de pouvoir entamer leur changement de comportement dans le bon sens et qui leur correspond. Donc on l'avait dit au début de cet épisode, nous recevons Thierry Courbarieux. Bonjour Thierry.
Bonjour Mohamed.
Thierry, alors tu es le premier Français à remporter l'Ultra Trail Yukon Arctic Trail. Cet Ultra Trail est réputé comme étant le plus froid du monde et le plus dur. Et tu en es venu à bout de 692 km, je crois, peut-être un peu plus, donc dans le nord canadien. Tu as été également coaché par Thierry Schmitt et tu as accepté de partager ton expérience. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les internautes, nous raconter un peu ton parcours et également comment ton changement a été opéré pour atteindre ces objectifs incroyables?
Oui, donc je m'appelle Thierry Courbarieux, je suis effectivement un spécialiste des courses très longues distances en milieu naturel. Ça peut être traversée de montagnes, traversée de déserts et comme tu l'as si bien exprimé, dans le grand froid, notamment sur le Yukon Arctic Ultra, mais dernièrement, il y a seulement 3 mois, dans l'Alaska, à l'Iditarod, une course de 1600 km en milieu polaire que j'ai effectuée en 25 jours, que j'ai eu la chance de remporter avec un Américain voilà, dans des conditions extrêmes, comme tu peux l'imaginer, à moins 40 par moment, bien souvent d'ailleurs. Et voilà, donc je suis un peu spécialiste de ces courses Et effectivement, pour moi, la nutrition et l'eau, c'était très important. Et j'ai rencontré Thierry Schmitt, voilà, et il m'a fait changer de comportement alimentaire, mais surtout, il m'a fait évoluer dans mon approche sur l'alimentation dans sa globalité. On parlait de l'eau, mais ça, c'est sûr que c'était une grande importance pour moi. Et je le vivais au quotidien, et notamment sur le Lyditarod, hein, il y a seulement 3 mois, où par moment, j'ai passé plus de 24 heures sans manger parce que j'ai eu des soucis d'approvisionnement. Ça, ce qui était important, c'est surtout que je buvais. Ça, c'était très important parce que boire, c'est la vie et c'est ce qui va me permettre de continuer. Manquer d'alimentation, c'est hyper important, mais j'ai vu que 24 heures sans manger en faisant des efforts colossaux à 18 heures d'efforts par jour, par des températures énormes qui nous demandaient de dépenser à peu près 8000 calories par jour, ben on arrive à tenir. Alors ça m'a interloqué. Alors je l'avais déjà vécu sur d'autres expériences. On avait déjà échangé avec Thierry sur ce sujet. Et j'avais même vu dans le désert où j'avais des problèmes alimentaires au départ en démarrant ces courses-là. Et au départ, ça m'inquiétait. Et puis, à force d'expérience, je me suis dit que ce n'était pas important. L'alimentation, il fallait se préparer, mais il fallait attendre le bon moment pour ne pas se dérégler. Et voilà, donc j'ai changé mon comportement alimentaire à son contact, c'est sûr. Je mange beaucoup plus de végétal que je ne mangeais auparavant pour avoir moins de déchets dans toute l'alimentation classique. Bien sûr qu'un coureur, on lui demande de manger très régulièrement des glucides, des pastas parties, comme vous imaginez avant les courses. Mais ça, pour nous, c'est des déchets. C'est un surplus d'alimentation qui n'est pas forcément utile pour notre pratique. Et voilà, donc c'est des changements alimentaires que j'ai pu effectuer au fur et à mesure du temps. Il a fallu un peu de temps quand même pour me préparer à ça. Et maintenant, ça devient naturel, ça devient même un besoin, hein, quand je suis en course, même en milieu polaire, je pense à mes bons légumes ou à mes fruits à mon retour. Franchement, c'est plus maintenant des habitudes alimentaires, c'est carrément devenu ma vie de tous les jours, quoi. Quand on fait un entraînement comme on a pu faire la semaine dernière avec Thierry, au retour, on n'a pas besoin de manger forcément des pâtes, on en mange un peu, mais c'est minime, quoi. On est plutôt dans des légumes, dans quelque chose qui va nous servir pour l'hydratation, pour pouvoir profiter de ces nutriments qu'il y a dans les fruits et légumes, pour pouvoir s'alimenter et récupérer tout ce qu'on a besoin en sel minéraux, en oligo-éléments, enfin, hein, tout ce qui est un besoin très important pour le sport.
Petite question, je pense qu'il viendra aussi, qui traversera la tête des internautes. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans le changement? Parmi justement le fait, parce qu'il y a beaucoup de comportements à adopter, l'hydratation, manger plus de végétaux, etc. Qu'est-ce qui a été vraiment bloquant pour toi? Ou plutôt, on pourrait peut-être le dire différemment, peut-être plus positivement, qu'est-ce qui a pu t'aider justement dans cette sélection d'étapes à réaliser, finalement à essayer d'adopter un plan de changement qui a pu faciliter justement ta transition et aujourd'hui te rendre beaucoup plus performant d'après ce que je comprends?
Déjà, il a fallu faire une recette parce que comme les habitudes alimentaires qui sont un peu dictées par des programmes ou plutôt par des habitudes de gens qui m'entouraient, donc j'essayais de faire à peu près pareil. Mais j'ai donc déjà fait cette recette et j'ai changé, j'ai voulu découvrir, voir ce que Thierry Schmitt me disait, vérifier par en pratiquant ses habitudes alimentaires où le végétal était beaucoup plus important, voir si j'avais pas des carences, voir si j'avais pas des baisses d'énergie ou des fatigues chroniques. Ben je me suis aperçu que non, je me suis aperçu que en changeant j'étais même par moments même plus en forme, certainement parce que j'avais moins de lourdeur ou de déchets à évacuer après mes repas, qui me permettaient de pouvoir enchaîner des entraînements, voire des fois 2 à 3 entraînements par jour. Et ces habitudes alimentaires sont devenues carrément mon quotidien. Et c'est sûr que notamment sur l'eau, ça a été un changement. Je buvais déjà pas mal d'eau, mais là, j'ai pris conscience de la qualité de l'eau. J'ai très vite installé une filtration chez moi pour pouvoir boire les bonnes eaux et justement profiter des minéraux qui ne dans des bonnes conditions. Et ça a été, là, je dirais, très important parce que maintenant, dès que je bois une eau qui n'est pas filtrée par ma filtration que j'ai chez moi, de suite, je sens la différence dès qu'elle est trop chlorée, dès qu'elle n'est pas bonne pour moi. Je le sens vite et je ne suis pas bien. Donc, tout ça a été un cheminement. Un cheminement, mais qui n'a pas fait baisser mes performances. C'est ce qui m'a fait dire qu'aussi, ben, j'étais sur le bon chemin. Parce que, effectivement, de voir que j'arrivais, et même, j'étais même mieux placé dans mes compétitions, même en prenant de l'âge, je me suis dit, ben là, oui, tu as tout bon. Tu rentres chez toi, tu bois les bonnes eaux, tu consommes les bons aliments, et tu te sens bien. Tu essayes de communiquer aussi avec ton entourage pour que déjà familialement on ait tous les bonnes démarches. Et je vois que ben, ces habitudes-là, elles sont prises au quotidien et qui nous permettent d'être plus performants et de vivre mieux au quotidien.
Merci beaucoup Thierry. Peut-être Thierry Schmitt, dans cette relation justement où tu as pu accompagner Thierry Corbarieux dans ce changement de comportement, également d'adopter ce nouveau rapport à l'alimentation, toi en tant justement comme étant accompagnant et coach, qu'est-ce que tu as pu aussi en retenir comme quick win justement pour les internautes aujourd'hui? Parce que si je comprends, dans les différents épisodes que nous avons abordés, ces conseils finalement s'appliquent à la fois à l'urbain qui vit dans un centre-ville, etc., qui a sa routine et ainsi de suite, et à celui qui prépare un ultra-trail. On est vraiment là finalement dans des conseils qui sont en clair à la fois d'une grande sagesse, qui sont basés sur la science et surtout qui sont efficaces et quelle que soit la situation, s'appliquent à tous. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux internautes pour pouvoir finir là-dessus?
L'idée essentielle au départ, c'est de prendre conscience que oui, on a besoin de calories, mais surtout pas d'excès. Et surtout de se dire que souvent, quand le corps est en souffrance, c'est parce que peut-être on est trop à l'effort, on dort pas assez, on n'a pas assez d'eau. Mais c'est pas l'alimentation qui solutionne les choses et ne pas mettre le problème sur l'alimentation. Il faut rester raisonnable. Et je crois que Thierry, aujourd'hui, il a la conscience de dire, non, non, mon corps a la capacité, on en discute souvent, il a la capacité de faire l'effort. Il a les calories, il a des lipides. Par contre, pour que tout le système, le rouage fonctionne, il faut de l'eau, il faut des électrolytes. Mais manger, si c'est pas pour manger pendant 24 heures à moins 40, il est capable de faire la démonstration. Donc ça veut dire qu'un urbain, il est aussi capable, à un moment donné, à température ambiante, de dire, OK, si je mange pas un repas, c'est pas la fin du monde. Bien au contraire. Et une fois que le cerveau, il sait que c'est pas essentiel, eh bien, il va pas vous embêter. Ça, c'est une notion vraiment très importante. C'est changer le regard par rapport à l'alimentation pour en être beaucoup plus libéré. La deuxième chose, c'est que l'eau est essentielle. Il faut une eau, il faut vraiment ça, par la porte ou par la fenêtre, commencer la journée par un verre d'eau de 25-30 centilitres. Si vous ne le prenez pas le matin à votre réveil, vous ne le rattraperez pas dans la journée. Je ne peux pas mieux vous dire, c'est essentiel. Il faut que vous arriviez à 1,5 litre à 16 heures, à 1 litre à midi. Si vous avez oublié 25-30 centilitres au réveil du matin, ça va être compliqué. Donc faites-le. Et une eau faiblement minéralisée pour qu'elle joue particulièrement son rôle de transporteur. En n'oublions pas que les minéraux et les oligo-éléments sont amenés par les fruits et les légumes. C'est pour ça qu'il faut une alimentation. Ça, c'est le troisième quick win. Il faut une alimentation qui soit végétale à 80%. Je n'ai pas dit qu'il fallait être végan, je n'ai pas dit qu'il fallait être végétarien. Il faut une alimentation végétale à 80%, brute, éviter les aliments ultra transformés. C'est pour ça que les sucres simples, comme les lentilles, comme les pois chiches, comme le maïs, par exemple, c'est des sucres simples qui peuvent être, ou les fruits, c'est des sucres simples qui peuvent être facilement coupés. Et notre corps est paresseux. Et nous aussi, on est paresseux. Ça permet de mieux respecter la digestion. Si vous prenez des aliments ultra transformés, comme les pâtes, c'est des combinaisons d'amidon très longues, difficiles à couper, compliquées pour l'organisme. On peut en manger un peu, mais ce n'est pas l'essentiel de l'alimentation. Voilà, je retiendrai ces trois éléments. Un, se dire que l'aliment, on en a besoin, mais tout excès va nous conduire à des déséquilibres, l'entropie, on l'a vu, et donc il faut toujours se lever de table en ayant encore un peu faim. 2, pensez à votre eau de boisson qui doit être faiblement minéralisée pour la notion d'une des propriétés d'eau qui est l'activité qu'on a développée, et la boire en quantité de 1,5 litre. Et ensuite, avoir une alimentation végétale à 80%. Voilà, j'espère que ces 3 éléments vous permettront de lancer le changement. Je reste à votre disposition.
Merci à tous les deux pour ces précieux conseils et ce partage d'expériences qui, j'espère, inspirera les internautes et leur permettront justement d'avoir ces fameux quick wins au quotidien appliqués pour pouvoir entamer leur changement de comportement et préserver leur capital santé. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de My Nutri Coach, le podcast qui vous donne des conseils que vous ne trouverez nulle part ailleurs pour préserver votre capital santé.